Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être venus ce soir pour aussi l'inauguration du Printemps du Polar, qui est une suite d'événements qui vont se passer à la librairie Mola, dans les rayons et avec des rencontres d'auteurs. Et on est très heureux de recevoir une auteure de talent que nous aimons suivre depuis le tout début, depuis son tout premier roman. Elle vient pour son sixième, qui s'intitule « Juste après la vague ». Et c'est un roman que nous avons énormément aimé. On est très heureux de la recevoir, qu'elle ait accepté notre invitation, d'autant plus qu'elle se fait un peu plus rare, mais elle est vraiment une auteure qui compte beaucoup pour nous et pour les lecteurs qui la découvrent. Bonjour Sandrine Colette.
Bonjour.
Alors c'est votre sixième roman et donc nous on se souvient encore ému du premier qui s'intitulait Des nœuds d'acier. Je me souviens en 2012 avoir reçu un pli avec ce livre d'une auteure inconnue, un premier roman qui était une sorte de renouveau de la collection, une collection mythique chez De Noël, Sueur froide. Et ce soir, on a aussi la chance d'accueillir votre éditrice, celle qui vous a fait confiance, celle qui a porté aussi ce manuscrit à la connaissance du public et qui a été le déclencheur de votre carrière, de votre œuvre, je peux dire plutôt. Et vous aviez gagné, grâce à ce premier roman, qui est un roman choc, un roman coup de poing, véritablement, le Grand Prix de littérature policière, qui est un prix extraordinaire et amplement mérité. Si je peux passer juste la parole à Béatrice Duval, qui est donc l'éditrice de Noël, pour qu'elle nous parle un tout petit peu de cette découverte de Sandrine Colette.
Oui, donc j'ai repris les éditions de Noël il y a 5-6 ans et c'est vrai que chez de Noël, il y avait cette collection absolument mythique qui s'appelait Sueur froide, qui avait un nom formidable parce que au cours de ma carrière, on s'est toujours creusé la cervelle pour trouver des noms de collections, ce qui n'est jamais très évident. Et quand on arrive chez de Noël et qu'il y a le nom de Sueur froide qui est formidable, qui suffit juste de réanimer et de remettre un peu sur le devant de la scène, c'est déjà une chance énorme. Et le premier manuscrit sur lequel j'ai flashé, c'était celui de Sandrine, avec le fameux roman Des nœuds d'acier, qui m'a paru totalement original, avec une voix singulière, un univers tellement particulier, un rapport à la nature que j'ai trouvé extraordinaire, des personnages inoubliables. Un roman qu'on a beaucoup trouvé très dur. Moi, je l'ai trouvé dur, mais surtout, je l'ai trouvé intense, authentique, avec un vrai univers. Et donc, j'ai vraiment adoré ce livre et j'ai voulu absolument rencontrer Sandrine parce qu'il y a une écriture, évidemment, il y a une histoire et puis surtout, il y a un auteur. Et c'est vrai que quand on veut s'embarquer sur une longue aventure avec un auteur, il faut vraiment que le feeling passe. C'est presque comme un pax, peut-être pas un mariage, faut pas exagérer. Non, restons sobres. Mais au moins un pax, parce que franchement, Sandrine, elle nous livre évidemment une part de son intimité. Enfin, tout ça, c'est des relations assez personnelles, assez. Faut se faire confiance, quoi. Faut vraiment se faire confiance. Et moi, quand j'ai envie que toute l'équipe de Noël, on n'est pas nombreux, on est une dizaine, mais quand j'ai envie que toute l'équipe se mobilise pour un auteur, il faut que ce soit quelqu'un qu'on aime bien. Parce que si c'est quelqu'un qu'on n'aime pas, ça marchera pas. Enfin, ça marchera, mais pas pareil, quoi. Et là, Sandrine, c'est notre premier auteur, enfin, l'auteur de Sueur froide, le premier auteur qui a remarché chez De Noël. Et Sandrine, c'est Sandrine. Donc, c'est un peu l'idole de toute la boîte. C'est l'auteur dont tout le monde rêve. Et ça, je le dis vraiment. C'est pas parce qu'elle est là que je le dis, parce que Dieu sait s'il y en a qui sont quand même des sacrés emmerdeurs, mais dès comme Sandrine, on en rêve tous.
Alors nous, en tant que lecteurs, libraires, on est amplement d'accord. C'est vrai que les lecteurs de polar sont plutôt habitués à des séries avec des personnages récurrents, des univers qu'on aime retrouver, familiers, des personnages qui deviennent presque notre famille. Mais nous, la famille, elle est à chaque fois renouvelée avec vos romans que vous proposez. Dans Juste après la vague, c'est aussi une histoire de famille. C'est une histoire en même temps aussi terrible, une famille unie. Pour une première fois, si on peut dire, même si dans le précédent, Les larmes noires sur la terre, il ne s'agissait pas d'une famille, mais de rencontres de gens qui se soudaient les uns aux autres, de femmes puissantes, de 5 femmes puissantes, qui se rencontraient, qui s'unissaient autour de Mo, qui était l'héroïne principale. Et donc, juste après la vague, il s'agit donc d'une histoire de famille qui va s'unir face à l'adversité. Une adversité qui n'est pas. Donc la nature est aussi un élément très présent. Comment est-ce que cette histoire de famille et cette histoire de nature meurtrière, pour le coup, est venue dans votre inspiration, dans votre imagination, cette nouvelle fois ?
La nature, c'est quelque chose que j'utilise dans chacun de mes romans. Et c'est vrai que si j'écrivais des romans, par goût personnel, j'ai une vraie fascination moi, pour la nature, la force de la nature, ce que ça nous donne à voir. J'en ferais quelque chose de superbe, mais comme j'écris des romans noirs, j'en fais quelque chose d'horrible, puisqu'il faut que ça serve... voilà, c'est un petit peu l'occasion qui fait le larron. Là, j'avais un atout dès le départ, je crois, c'est que j'ai une peur panique de l'eau. C'est quelque chose qui me fait... même dans une piscine, je suis capable d'avoir peur. Notamment, il y a eu une mode que j'ai vue chez des amis, une ou deux fois, qui sont de faire des piscines avec des liners non plus bleus qui font, ou blancs qui font que l'eau est turquoise, mais des liners noirs qui font que l'eau est un peu gris-acier, donc ça donne de la profondeur, c'est très bobo, c'est très mode, et c'est épouvantable parce qu'il y a déjà des ombres et que vous pouvez déjà imaginer qu'il y a quelque chose en dessous. Donc à ma décharge, il paraît que mon arrière-grand-père ne prenait pas de bain sans que sa femme lui tienne la main tellement il avait peur de l'eau. Alors je pense qu'il y a quelque chose de familial. Donc voilà, j'avais ça qui est un vrai atout. Véritablement. Parce que je me suis dit que j'aurais plus de facilité à faire passer une émotion, une peur que je ressens déjà moi-même. Et puis après, c'est un peu le hasard, les circonstances qui font qu'à un moment, l'idée se fabrique, vous tombe dessus un peu. Moi, je me souviens très bien que c'était un moment où ça faisait 2 ou 3 jours qu'il pleuvait sans discontinuer. Et que matin et soir, quand vous regardez par la fenêtre, vous vous dites « Pouah ! Mais il pleut, et il y a des flaques, et les ruisseaux montent, et ça ne s'arrêtera jamais. » Et voilà, et tout ça, agrégé au fait que j'avais lu un peu avant la reconstitution scientifique d'un événement qui s'est produit a priori il y a 70 000 ans au Cap-Vert. Il y avait un volcan dans la mer qui est entré en éruption et qui, sous la force de cette éruption, s'est effondré en partie dans la mer. Et ça a provoqué... on estime que 150 millions de tonnes de rochers de roches sont tombées dans la mer à ce moment-là. Et que... Alors moi, je suis littéraire, je ne suis pas scientifique, donc je pense que c'est le principe d'Archimède, que tout corps plongé dans un liquide produit un effet inversement, etc. Donc une vague s'est créée, une lame de fond, une vague qui est montée, on estime, à 300 mètres de haut. Il faut imaginer qu'à Haïti... on considère que la vague faisait à peu près 50 mètres. Donc ça donne une idée quand même. 300 mètres, c'est la tour Eiffel. Et qu'elle est partie vers l'océan, avec des ricochets, hein, mais qu'elle est partie vers l'océan à 800 km/h. Et les scientifiques ont étudié ça, parce qu'il y a des géologues qui avaient fait des études sur la Terre, même pas au bord de la mer, et à 1 km, ils ont trouvé des blocs de 700 tonnes dont la nature géologique n'était absolument pas la même que celle du sol qui se trouvait à ce moment, à cet endroit-là. Et donc, ils ont bien vu que ça venait d'ailleurs. Ils ont cherché d'où ça venait et ils ont reconstitué l'histoire de ce volcan. Et en lisant ça, je ne sais pas comment dire, vous sentez la force qui est de cette nature, vous sentez la puissance qu'il a fallu à un moment pour que tout explose, quoi, puis tout s'effondre. Et à ce moment-là, vous vous dites, mais c'est un personnage romanesque fabuleux, je vais commencer avec ça, et après je vais voir ce que je peux mettre dedans.
Oui, c'est encore une proposition totalement une gageure pour vous, une épreuve, puisque la phobie de l'eau fait que ce drame personnel émerge une œuvre et un roman, quoi. C'est ça qui... parce qu'on y est véritablement, on est ballotté, on est sur cette barque, quoi, sur cette île d'abord, cette barque. Et justement, très vite, dans vos romans, ce qui est frappant et ce qui est inoubliable, ce sont les personnages que vous y mettez sur cette barque et sur cette île. Comment sont nés Madi, Pata et les 11 enfants, les 9 enfants, les 11 membres de cette famille, puisque c'est donc une famille unie, contrairement à certains de vos autres romans où c'était les fratries, où les familles étaient assez monstrueuses et toxiques. Là, c'est une famille au contraire aimante, unie, qui se tiennent par la main face à cette adversité, puisque juste après la vague, c'est 6 jours après un tsunami. Et est-ce que la famille là a été plus forte et les personnages se sont révélés comment dans cette histoire ?
C'est toujours curieux, c'est un peu le hasard. Là, vous voyez, c'est, si j'étais pas tombée sur cet article de volcan, peut-être que l'idée serait jamais venue. Et après, je crois que quand il y a un décor, il y a un univers qui a de la force et on se demande ce qu'on va mettre dedans. Et ben là, vous avez le choix. Vous dites, est-ce que ce sont les seuls survivants ou est-ce que j'en mets plein? Est-ce que je mets un couple tout seul ou avec un enfant ou plusieurs enfants, etc. Et à chaque fois, vous explorez un peu les possibilités que ça va vous ouvrir. Est-ce que vous voulez travailler sur la solitude, sur le couple, sur, voilà. Et moi, j'avais envie de travailler, enfin travailler, allez, d'écrire autour de l'abandon. Et je pense que là-dessus, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est justement de prendre pour une fois une famille unie, vous avez raison, et c'est moi qui vais la séparer. Et l'abandon, on sait très bien hein, que c'est un terme unique qui est relativement trompeur. Dans l'abandon, il y a ceux qui abandonnent et ceux qui sont abandonnés. Et j'avais envie de travailler sur les deux. Pour travailler sur les deux, il fallait bien que sur cette petite île qui reste immergée alors que le raz-de-marée géant a absolument tout englouti, il fallait bien qu'il y ait les deux cas de figure. Donc il y en a qui vont essayer de se sauver et il y en a qui sont abandonnés sur l'île parce qu'il n'y a pas assez de place. Sur la barque, il n'y a qu'une barque qui a été sauvée. Et voilà, je crois que c'est au moment où vous vous dites, si je mets en scène ce genre de personnage, je vais travailler sur ça. Si je mets en scène voilà, une famille avec plein d'enfants, je peux travailler sur l'amour, parce que c'est aussi un roman, enfin, c'est noir, mais c'est un roman sur l'amour. Je pense vraiment que l'abandon, ce n'est pas autre chose qu'une forme d'amour aussi. Il y a, encore une fois, ceux qui partent, ceux qui sont obligés de rester. Et puis plein de choses que vous imaginez après, c'est un peu le petit Poucet, c'est un peu l'arche de Noé, c'est un peu Jonas et la baleine, enfin, il y a tous les univers de notre culture qui se mettent en place autour. Et puis il y a peut-être aussi un tout petit artifice, comme c'est noir, il va falloir que des choses se passent mal. Si je prends 9 enfants au départ, je suis presque sûre qu'il en restera à la fin. Au moins un peu.
C'est terrible ce que vous dites en même temps.
Oui, mais je n'ai pas d'enfants, alors je crois que c'est beaucoup plus facile à dire que pour ceux qui ont des enfants et qui me trouvent horrible quand je dis ça. Mais c'est le recul scientifique.
On va dire ça. Donc justement, ceux qui restent, ceux qui sont abandonnés, ils sont 3, sans en dévoiler trop, bien entendu, parce que ce n'est pas le but de raconter, mais juste le début. Alors, le début est raconté du point de vue de Louis, qui est l'enfant, celui qui a vu la vague arriver, celui qui a vu la catastrophe arriver. Louis, le berger des poules, il garde les poules il s'occupe des poules à 19h, je crois, tous les jours. Et donc, lui, il a vu la vague arriver. Mais Louis, Perrine et Noé, qui sont les 3 enfants du milieu, c'est sur eux que le sort va s'acharner. Pourquoi donc ces 3 enfants, alors qu'il y a les 2 aînés, Mathéo et Liam? Il y a les cadettes, les petites sœurs qui sont derrière. Est-ce que c'est trop en dire de parler de ces enfants qui sont sacrifiés? Parce qu'il y a toujours un sacrifice, il y a toujours des sacrifiés. Je me souviens dans Il reste la poussière, il s'agit aussi de l'enfant sur lequel on s'acharne.
Oui. C'était presque compliqué. En fait, il a fallu vraiment que je me mette du point de vue des parents. À partir du moment où vous décidez d'essayer d'en sauver une partie, et notamment du père, puisque c'est lui qui prend cette décision-là, peut-être qu'on peut imaginer que dans ce livre-là, la mère, elle, se serait laissée mourir avec tout le monde. On aurait sauvé tout le monde ou on serait morts tous ensemble, peut-être. C'est ce qu'on pressent. Voilà, le père décide, il faut essayer d'en sauver une partie. Et donc, il fait un calcul très pragmatique. C'est que les enfants les plus jeunes, si on les laisse, ils vont mourir. Ils ne savent pas se nourrir. Les plus jeunes ont 1 an, 3 ans, 5 ans. Donc, ils ne savent pas faire à manger. Ils ne savent rien faire. C'est des enfants qu'on ne laisse pas encore sans surveillance à cet âge-là. Donc, il ne peut pas laisser les petits. Et en même temps, il devrait laisser les plus grands, évidemment. Et il va décider de les emmener avec lui parce qu'il sait que les terres hautes, donc là où, a priori, l'eau n'a pas pu monter, sont à plus de 10 jours de barque. Or, il sait aussi que lui ne peut pas emmener tout le monde sur 10 jours. Donc il a besoin des 2 aînés pour l'aider à ramer. Donc il fait ce choix-là très pragmatique. Enfin, en fait, c'est toujours pareil, c'est au milieu, il en reste 3. Et donc ça tombe sur eux.
Mais alors, chacun, tous les trois, ont une singularité.
Voilà, et oui, donc c'est doublé de quelque chose, c'est qui va leur poser question à eux vraiment, c'est que ces trois petits gamins qui restent, qui ont en gros entre 8 et 12 ans, en plus, ont eu des accidents, soit de naissance, enfin, ils sont un peu, voilà, comme ça arrive parfois, ils sont un peu estropiés. Il y en a un qui est tout petit, qui ne grandit pas. Il y en a une qui, sur un accident petit avec sans doute des frères et sœurs, est devenue borgne parce qu'elle a eu un bâton planté dans l'œil. Et puis, il y en a un qui a un peu une patte folle. Bon. Et donc, je pense, hein, sans tomber dans la caricature, mais ces petits-là, la première question qu'ils vont se poser le matin où ils découvrent que la barque n'est plus là et que les parents ne sont plus là, forcément, c'est pourquoi eux. Et la deuxième question, c'est est-ce que c'est parce qu'on est raté? Et jusqu'où on est raté? Et jusqu'où on a des chances de soit de revoir les parents, soit de pouvoir survivre un petit peu. Donc voilà, on n'en dit pas trop parce qu'on doit être page 30. Hein.
Non,
on n'est pas loin. Hein. Non, je vous assure, ça démarre vite. ce qui est intéressant, c'est après. Mais voilà, donc je dirais par défaut, le père a emmené les grands pour l'aider, les petits qui ne sont pas du tout autonomes, et puis il prie pour que, en même temps, ces petits gamins-là qui sont un petit peu handicapés, il le sait, sont aussi les plus débrouillards, comme souvent. C'est-à-dire qu'ils ont appris à compenser plein de choses, et donc ils se disent ils ont leur chance. Il se dit ça quand il est un peu de mauvaise foi ou quand il ne veut pas s'avouer le fait qu'il y a assez peu de chances que. Ils aient le temps de revenir les chercher.
Oui, donc en effet, ce n'est que le début. Ça démarre très très fort et très très vite, quoi, comme souvent dans vos romans, à chaque fois avec une première scène assez choc, quoi. On est de suite dedans, de suite emporté, de suite submergé, si on peut faire une métaphore maritime éculée. Mais en effet, on va suivre ces deux groupes à la fois, les parents et les six enfants. Et de l'autre côté, les trois qui vont rester. Et c'est là le cœur du roman, parce que, et on va être encore surpris. Est-ce que les rebondissements, les événements qui vont se produire, est-ce que vous les avez déjà en tête? Est-ce que la fin aussi, vous l'avez déjà en tête? Ou est-ce que ça revient au fur et à mesure et vous êtes surprise vous-même par là où ça vous amène?
Alors, moi, j'ai une méthode qui est que je ne commence pas à écrire avant d'avoir au moins un canevas, qui est que j'ai le début, j'ai la fin, et j'ai un certain nombre d'événements au milieu pour rythmer un peu le livre, tout simplement parce que je me suis rendu compte, en ne l'ayant pas fait sur un roman précédent, que j'avais eu beaucoup de mal à maintenir un fil, à maintenir une tension. J'avais eu l'impression de me perdre pas mal. Et donc voilà, ma méthode de travail est beaucoup plus simplifiée quand je fais ça. Après, il faut imaginer qu'au moment où je commence à écrire, j'ai ce canevas, c'est-à-dire qu'en gros, j'ai un mot-clé par chapitre, et que parfois, le mot-clé, parce que je ne sais pas exactement ce qui se passera, c'est blablabla à voir. Donc ça me laisse de la latitude. Mais ça laisse aussi de la surprise, parce que si vous savez exactement ce que vous allez écrire, après, il n'y a que du remplissage à faire. Or là, il faut quand même que ça reste créatif d'écrire ces 300 pages. Donc voilà, il y a à la fois le cadre et à la fois à l'intérieur la liberté, puisque je me mets deux à trois mots clés et puis il faut écrire 8 pages. Donc il y a de la marge autour.
Et surtout qu'ils ne sont pas vraiment totalement seuls non plus sur cet océan, puisqu'il y a quelque chose qui est là dans le fond des eaux, on ne sait pas trop non plus ce que c'est, si c'est un animal, si c'est une baleine, si c'est un monstre mythologique même presque, enfin on se prend à rêver ou à penser à être effrayé. Vous dites, page 261, donc on est un peu plus loin, l'eau s'ouvre en tourbillon sur un animal gigantesque, sur la barque, ils hurlent tous, le père, la mère, les enfants, reculant par réflexe, les mains levées devant eux, dans un geste inutile. Est-ce qu'ils voient ce que voit Pata à ce moment-là? Le corps gris-noir brillant sorti des entrailles de la mer, la gueule grande ouverte sur des dents coupantes, et plus effrayant encore, le mugissement. L'entendent-ils ce cri rauque et lugubre qui fait trembler la surface de l'eau, plissant l'air sous sa résonance et les pétrifiant tous les sept au milieu de la barque, minuscules et affolés, les petites pleurs se cachant les yeux, Liam, le père, attrape les rames, luttant contre le courant que crée la bête, l'arrivée est à quelques mètres. Et donc voilà, on se prend vraiment, on est totalement sur la barque avec eux, et on voit cet animal surgir, on ne sait pas ce que c'est, et presque c'est une menace latente, là, le danger personnifié, comme la mère qui est un monstre en soi, quoi.
Oui, je crois que c'est, encore une fois, c'est, alors, c'est peut-être moi j'ai des facilités là-dessus, mais c'était d'essayer d'imaginer toutes les peurs qui sont liées chez plein de gens. En fait, je m'en rends compte parce qu'il y a plein de gens qui viennent me voir après en me disant que c'est l'angoisse totale et que le monstre, justement, cette bête dont on ne sait pas vraiment ce que c'est, eux aussi, quand ils vont au bord de la mer et qu'ils n'ont plus pied, ils se demandent s'il n'y a pas quelque chose et que voilà, c'est. Et que eux aussi, il y a 25 ans, ils ont vu les dents de la mer et que ça leur est resté. Voilà. Et en même temps, je crois que il y a quelque chose de bien à pas dire réellement ce que c'est, à laisser de la marge, parce que c'est exactement ce que vous dites. Ça pourrait n'être qu'une illusion parfois. Et ça pourrait être, c'est probablement quelque chose qui n'existe pas vraiment, enfin, qu'on n'identifie pas non plus. C'est juste, je pense qu'il y a beaucoup plus d'angoisse à décrire le fait que parfois ils sentent que quand la mer est lisse, ce qui n'arrive pas très souvent, mais la mer est lisse et il n'y a absolument rien partout à l'horizon, et juste un moment ils sentent la vague, la barque, pardon, qui a un petit mouvement. Comme ça, et donc ils savent que la chose est en dessous et qu'en passant sous la barque, ils vont la soulever un petit peu. Et ce qui m'intéresse, moi, à ce moment-là, en disant suffisamment peu, c'est de laisser l'imagination des lecteurs. Justement, bon, il y a des indices sur la couleur, sur la taille, peut-être sur les effets que ça fait, mais je trouve qu'il n'y a rien de plus terrifiant que de vous laisser la place, parce qu'on se rend compte qu'en fait, les lecteurs ont un imaginaire absolument horrible. Parfois bien pire que le mien, puisqu'ils viennent me voir en me disant « moi j'ai imaginé que c'était comme ci, puis que c'était comme ça, et puis qu'en fait c'était le diable ». Et voilà, il y a un jeu aussi, je pense, de ce côté-là.
Il y a un jeu aussi par rapport à la temporalité du livre. On ne sait pas quand ça se passe véritablement. Ça peut être maintenant, ça peut être dans 100 ans, dans 105 ans, dans 300 ans. Enfin voilà, il y a une volonté de ne pas mettre de repères non plus spatiaux. On ne sait pas où ça se passe, si c'est en France, si c'est ailleurs. Ça tient aussi au nom des personnages, quelquefois, qui sont volontairement flous et voilà, on peut pas les rattacher à une culture véritablement propre. Est-ce que ça c'était aussi voulu qu'il y ait cette imprécision géographique et temporelle pour laisser donc cette place à l'imaginaire et aussi peut-être un côté presque comme un conte, une fable presque?
Oui, oui. Alors que ça a été voulu, oui. Je pense que c'est. Alors il y a deux choses. C'est d'abord, je voudrais pas que ça soit perçu comme un roman d'anticipation. Ou de science-fiction, c'est pas mon écriture, c'est pas l'idée, donc ce n'est pas le futur, ça pourrait, mais l'idée n'était pas de dire que ça se passe en 2054 et que donc ça va arriver, enfin c'était pas, voilà, c'est pas de la science-fiction. Et en même temps, j'ai trouvé qu'en ne mettant ni date ni lieu, ça permet de lui donner quelque chose, un caractère très intemporel, c'est-à-dire que vous dites. Au lieu de vous dire que ça n'arrivera pas, en fait, je crois que le réflexe est de se dire que ça peut arriver. Et ça peut arriver n'importe où et n'importe quand. Et en fait, on sait que des choses comme ça sont déjà arrivées. On sait aussi que beaucoup de scientifiques alertent sur le fait que alors le volcan Fogo, qui est du côté du Cap-Vert, risque de se réeffondrer en partie. Qu'on imagine que d'ici 30 ans, le tremblement sous-marin, le séisme sous-marin qui avait inondé Lisbonne à la fin du XVIIIe siècle risque de se répéter. On sait, il y a des alertes comme ça. Et donc, quand vous écoutez un petit peu, quand vous entendez des choses de l'actualité, puis que vous regardez ce livre, voilà, à la fois vous vous dites, bon, ça ne peut pas nous arriver, et en même temps, si, ça peut arriver demain ou dans 100 ans, justement, et très loin, ou juste ici, pourvu qu'il y ait un peu de mer. Et donc voilà, c'est cette proximité possible que j'avais envie de mettre en scène.
Et est-ce que la lecture ou l'interprétation sur le côté fable écologique presque peut être pertinent quand on lit votre livre, parce que c'est aussi quelque chose d'ouvert. Je lis page 11, donc là c'est vraiment le tout début. Donc vous parlez des vieux qui avaient vu la chose arriver aussi comme Louis dans sa avec les à côté des poules. Ils avaient bel et bien perçu l'infléchissement du climat. Ils hochaient la tête à nouveau, attendaient certains qu'un jour cela serait. Les autres, les gouvernements, les politiques, sans doute qu'ils le savaient tout aussi bien, mais là-dessus ça avait été bouche cousue. Personne n'en avait parlé en dehors de Poignées d'illuminés qui sonnaient l'alarme sur des sites internet. Ben voilà, ça y est aussi ce côté où la nature, elle dépasse l'homme finalement.
Oui, toujours. Et en même temps, c'est ce que vous avez dit, c'est page 11. Et encore une fois, le livre commence 6 jours après ce qu'on appelle un méga tsunami ou un raz-de-marée géant. Enfin, et donc, s'il y a une vision écologique possible, moi je trouve que c'est très bien. Et en même temps, c'est pas non plus un roman d'idéologie. C'est pas là-dessus, puisque le cœur du roman, vous l'avez bien dit hein, juste avant, c'est la famille. Alors, dans cette situation extrême, parce que la nature, je le dis improprement, quand elle se met en colère, parce qu'on sait que la nature n'a pas de volonté, mais quand elle se met en colère, n'a pas de limite, et puis rien ne peut l'arrêter. Alors là, pour le coup, je trouve que par rapport à un crime, ça a cette dimension-là. C'est que vous pouvez envoyer le commissaire Adamsberg,
par exemple
et même l'armée, ils pourront rien faire, même eux. Donc vous pouvez juste attendre que ça s'arrête, et je trouve que la nature est le serial killer le plus impressionnant qui soit. Moi je sais plus, quelque chose qui m'avait toujours impressionné, c'est sur certaines interviews de pompiers sur des grands feux de forêt, des grands incendies, où ils expliquent qu'ils ont l'impression que le feu est vivant, et ils savent que c'est pas vrai, mais ils ont l'impression que le feu sait par où ils vont les prendre, qu'ils tournent, que les flammes tournent, que le feu essaye de les encercler. Et ils ont cette sensation-là, vraiment d'un ennemi vivant et qui résonne. Encore une fois, on sait que c'est pas vrai, mais on peut faire comme si, et ça donne à la nature une dimension vraiment inquiétante, qui en fait un personnage romanesque vraiment de premier plan pour ce genre de littérature.
Alors, roman de genre, alors on ne peut pas vous catégoriser, on ne peut pas vous mettre dans une case, donc c'est inclassable totalement, c'est à la fois un roman presque fantastique, un roman de survie, c'est un roman noir, c'est un thriller, c'est tout ça à la fois, il n'y a pas le choix en fait finalement, on doit tout accepter. Toutes les lectures sont possibles, toutes les entrées sont possibles.
Oui, mais parce que je pense que... Alors moi en tout cas quand j'écris, j'écris pas en fonction d'une étiquette, et je suis pas sûre que les lecteurs lisent non plus en se disant ah bah tiens c'est un roman noir ou c'est un thriller, donc je vais...
Même Des Nœuds d'acier, vous disiez que c'était pas du tout vous avez pas écrit un thriller du tout quoi au départ quand vous
l'avez
écrit.
Non mais tout simplement parce qu'en fait vous vous posez pas la question, c'est que vous avez une idée et vous voulez l'écrire, et qu'importe ce qu'on en fera après, c'est-à-dire qu'importe les étiquettes qu'on va lui coller qui ne relèvent plus de vous quasiment. Vous avez une histoire à raconter, elle vous prend, elle est là dans vos tripes, et il faut que vous l'écriviez, et vous dites je l'écris et après on verra ce que c'est, mais de toute façon il faut que je l'écrive. Et donc c'est peut-être aussi pour ça d'ailleurs que c'est ce que vous dites, il est un peu en dehors des genres, il est difficile à cataloguer, je sais que pour les libraires comme vous c'est une calamité parce que vous savez pas trop où le mettre.
On est tous à le conseiller. Oui, en littérature, oui. Et en polar.
Oui, mais alors il y a des libraires qui racontent d'ailleurs. Alors on le met sur la littérature polar quand même, mais du coup on le met sur le côté le plus près possible de la littérature générale parce qu'on se dit que il est juste à côté, donc il serait presque au milieu. Il est voilà, et c'est amusant de voir un peu ça. Mais je pense voilà. D'un côté, ça donne du plaisir à écrire. De l'autre côté, ça donne du plaisir à lire. Et finalement, je comprends bien qu'on ait besoin de catégoriser, mais qu'importe.
C'est vrai. Je pense qu'on est tous d'accord. Le côté, le rebondissement qui est propre au roman dit policier, mon roman suspense, les événements qui vont se dérouler, comment arriver à les rendre à la fois effrayants, tendres quelquefois, mais toujours crédibles? C'est une question de secret d'écriture.
Non, il n'y a pas de secret. Non, je ne crois pas vraiment.
Parce que ça, c'est à chaque fois totalement inouï, incroyable comme histoire. Et c'est à chaque fois, on y est dedans et on se dit, c'est possible, c'est comme ça. Oui.
Oui, je crois. Enfin, en fait, il faut laisser l'imaginaire aller jusqu'où il veut. Et puis moi, ce que je fais, c'est que j'écris. L'idée vient, j'écris. Et le lendemain ou la fois d'après, quand je rallume l'ordinateur, je lis ce que j'ai écrit la fois d'avant. Mais c'est surtout le soir, après avoir écrit un passage, ça tourne quand même dans votre tête et je le mets en image. En fait, je fais du cinéma. Et je pense qu'au moment où vous le mettez en image dans votre tête, en remettant les dialogues, là, vous le confrontez à quelque chose d'assez différent. C'est-à-dire, est-ce que visuellement, c'est cohérent? Est-ce que dans les dialogues, c'est cohérent? Est-ce que c'est trop parlé? Est-ce que c'est trop familier? Est-ce que c'est vulgaire? Est-ce que ça correspond à des enfants de 10 ans? Est-ce que ça correspond à des adultes? Et c'est assez étonnant. Je pense que ce basculement sur l'image, moi, me permet de vérifier la cohérence. C'est-à-dire, je sais jusqu'où je voudrais aller et après, je vois si ça tient. Mais je le vois, je dirais, presque viscéralement ou instinctivement. À l'épreuve de l'image, tout simplement, je pense, et en entendant les voix, c'est-à-dire que j'entends les dialogues, je reprends tout ça, et je pense que voilà, la crédibilité, la légitimité ne sont que là. Après, on sait aussi où sont les limites humaines. Bon, on va pas en faire des surhommes, c'est-à-dire qu'on sait qu'ils ne vont pas se lancer à l'assaut de 10 jours d'océan à la nage parce qu'ils sont plus forts que tout. Mais voilà, je pense que le livre dans votre tête devienne un film, je ne sais pas, ça lui donne une réalité et une légitimité autre.
Et à chaque fois, ce sont des romans de la survie, ce sont tous des survivants et sont tous des personnages qui donc extrêmement proches de nous et qui sont à la fois pour les enfants, pour le coup, parce que vous aimez camper vous aimez beaucoup imaginer et créer des personnages d'enfants ou d'adolescents, et à chaque fois, ils ont des voix différentes. Et c'est extrêmement un plaisir aussi de les lire, à chaque fois de confronter leurs paroles, et par rapport là aux parents qui sont eux-mêmes, la mère m'a dit est inconsolable, elle est effondrée parce qu'il faut voilà, il faut sacrifier certains de ses enfants, le père est presque se sent quelquefois un assassin, donc voilà, il y a toute cette crédibilité aussi psychologique des personnages qu'il faut créer. Est-ce que vous avez une fiche pour chacun des personnages? Est-ce que vous avez un cahier des charges, une contrainte?
Oui, non, alors j'avais un conseil, voire une injonction de mon éditrice, mais à sa décharge, pas Béatrice, mais de la personne avec qui je travaille plus le texte, qui me disait, mais chaque personnage, normalement, on le travaille, on fait une fiche dessus, et même si on le prend à un instant T, je crois que pour le peu de techniques qu'on peut vous apprendre sur des techniques romanesques, etc., ce que j'ai jamais fait, moi, mais on vous dit un personnage, vous le prenez à l'instant T, mais il faut que vous sachiez, même si vous n'en parlez pas dans tout le livre, d'où il vient, quelle est son histoire, quelle est sa famille, quel est son job, parce que il faut que vous le connaissiez, ce personnage-là. Et donc, consciencieusement, sur le premier, je l'ai fait, sur le deuxième, je l'ai fait à moitié. Et puis après, j'ai arrêté, parce qu'en fait, c'est l'instant T qui m'intéresse et que je me dis, je les prends vraiment tels qu'ils apparaissent à ce moment-là. Je crois que ça dépend de ce qui nous intéresse vraiment. Moi, je crois que quand vous prenez des gens comme vous et moi, des gens ordinaires, que vous les mettez dans des situations extrêmes, comme une catastrophe naturelle, comme une guerre, comme ce genre de choses... bien sûr que le passé existe, mais à la limite, il va exister dans les capacités que vous avez à vous en sortir, à vous débrouiller, à plein de choses. Mais aussi, d'une autre façon, ça ne vous sert à rien, parce qu'il faut tout réinventer à ce moment-là dans l'urgence et dans des situations qui font que les réflexes ordinaires n'existent plus, vous ne les avez plus. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà eu, comme on dit, vous savez, quand on dit « j'ai eu la peur de ma vie », une vraie peur... on peut vous dire tout ce qu'on veut, une vraie peur, éventuellement vous êtes en apnée, vous n'arrivez plus à respirer, et éventuellement vous ne pouvez même plus bouger, donc de toute façon vous ne pouvez plus vous enfuir, vous ne pouvez plus rien faire. Donc voilà, vous voyez, c'est tout ce qu'on peut vous dire, de toute façon ça ne sert à rien. Donc moi je prends les personnages à ce moment où ils ont été vidés de toutes leurs capacités, puisqu'ils sont dans une urgence qui n'est même pas imaginable, et qui fait que ils sont vierges, quoi.
Est-ce que votre écriture, donc finalement, quand elle se déplie, quand elle se déploie petit à petit, puisque ça vous prend, puisqu'à chaque fois on attend, en effet, comme disait votre éditrice, chaque année le nouveau, donc il y en a un par an qui vient, et on est en effet sur notre cadeau de Noël au mois de décembre pour la sortie en janvier. Est-ce que votre écriture, donc forcément, elle va être modifié par les conseils que vous allez recevoir, les relectures, les premières relectures, ou les rencontres? Est-ce que ces personnages-là aussi, ils existent d'une certaine façon? Est-ce qu'ils sont inspirés de personnages aussi réels, dans leur psychologie du moins, même si les situations en elles-mêmes sont uniques? Ou est-ce que c'est tout ça, c'est totalement votre imaginaire? Est-ce que vous laissez porter par la vague du hasard?
Oui, mais moi j'aurais tendance à dire que on a souvent la sensation de partir d'un terrain complètement en friche et de tout imaginer. Et puis quand vous avez fini d'écrire le livre, vous vous rendez compte que tel personnage, vous lui avez prêté la répartie de quelqu'un que vous connaissez ou le caractère un peu de quelqu'un que etc. et que vous n'avez pas résisté au fait de donner à un personnage que vous n'aimez pas le prénom de quelqu'un de votre famille que vous n'aimez pas par exemple, juste pour l'embêter. Non, je crois en même temps, vu ce que j'écris, c'est quand même assez loin des situations qu'on vit nous au quotidien. Ça peut arriver, hein, mais c'est pas souhaitable. Et donc je pense que je pars vraiment sur des choses inventées. Après, on sait bien que des choses inventées ne le sont qu'en fonction de ce que vous êtes vous-même, de ce que vous connaissez, de ce que vous avez vu, lu, entendu, etc. Et il y a peut-être un seul roman qui est le précédent, Les Larmes Noires, dans lequel j'ai réellement utilisé les histoires de vie romancées et exagérées de cinq personnes que j'ai connues. Et donc là, il y a un fondement qui est de l'histoire vraie, ce qui, quand vous l'écrivez, est d'autant plus terrifiant, parce que vous savez que toutes ces trajectoires qui ont explosé en plein vol sont des histoires vraies de gens que vous avez connus et qui sont morts pour certains, parce qu'on ne se remet pas de tout. Mais d'une façon générale, je dirais que la fiction vous permet d'aller plus loin, enfin d'imaginer. En fait, la réalité vous contraint. Donc, imaginez complètement un personnage. Voilà, ça vous permet d'aller dans tous les sens et de pas vous dire ah oui, mais cette personne que je connaissais, non, je peux pas dire ça parce que non, il y a plus d'attache. Donc, la liberté est dans l'imagination totale. Et après, vous vous rendez compte que vous avez des influences d'écriture, des influences de contes et de fables, par exemple. Des influences de livres qui vous habitent depuis 10 ans ou 20 ans, et des influences de votre vie, mais après. Enfin, ça, c'est l'inconscient.
Oui, et puis c'est le travail aussi du, enfin, la lecture aussi, qui, enfin, la lecture, les lecteurs qui vous le disent aussi, peut-être après coup, ça vous a pas forcément frappé sur l'instant, et c'est après coup que les commentaires font que vous êtes. En effet, on lit le déluge, on lit Noé, forcément, bien sûr, c'est un clin d'œil, on lit Moby Dick, on lit plein de ces. Et on voit aussi, donc visuellement, c'est très très fort, comme vous dites, et c'est presque du cinéma en livre, quoi. Et donc justement vos romans, je sais que le premier, justement, Des Nœuds d'acier, il y a un projet de film parce que c'était peut-être celui qui est le plus connu d'entre vos livres, le premier, donc La Révélation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Est-ce que vous êtes partie prenante de cette aventure, ou pas du tout? Ça vous indiffère totalement? Ça vous appartient plus après?
Non, c'est pas que ça m'indiffère, mais c'est le début. Et donc on est dans une phase qui est celle de la recherche de financement, et où on sait qu'au moins la moitié des projets tombent à l'eau. Donc l'idée, c'est plutôt de pas s'emballer. Donc j'en ai. En fait, il y en a deux qui sont signés comme ça. Il y a Des Nœuds d'acier et Six Fourmis Blanches. Donc Six Fourmis Blanches qui est en pleine montagne. Donc il y a un décor visuel aussi très fort. Donc c'est pas que ça m'indiffère. Hein. Alors en revanche, j'ai l'impression, vraiment, pour avoir discuté un petit peu avec quelques réalisateurs et producteurs, on fait pas le même métier, c'est sûr. Et je pense qu'il y a quelque chose à admettre, qui est que quand le livre va devenir un film, c'est plus un livre, c'est plus votre livre. Ça devient un film, et qu'il faut faire avoir confiance, et à tort ou à raison, mais de toute façon, au réalisateur pour s'en occuper, parce que par ailleurs, on vous laisse des droits relativement limités. Moi, une productrice m'avait expliqué de but en blanc, bon, de toute façon, si je vous prends votre livre, je fais ce que je veux avec. D'accord ? Et elle me dit, ce que je veux, ça veut dire je change les prénoms, jusque-là, ça va. Elle me dit, je peux faire mourir quelqu'un que vous ne faites pas mourir. Ah bon ? Oui, je peux rajouter une scène qui n'existe pas dans le livre, je peux changer la fin. Ça fait beaucoup. Donc il faut quand même admettre que c'est plus vraiment votre livre. Et elle me dit, en revanche, il vous reste le droit de demander le retrait de votre nom du générique si vous n'êtes pas contente.
Qu'est-ce qui vous reste alors?
Voilà. Et en même temps, on sait très bien que quand un livre va être transformé en film, c'est une sorte de consécration, c'est une sorte de graal aussi qu'on a tous ça, et les traductions à l'étranger. Donc c'est une aubaine, donc c'est une chance. Et puis je pense qu'il y a une certaine... Vous êtes forcément curieux de savoir ce qu'un réalisateur va faire de votre livre. Et puis il faut avoir confiance sur le fait que ça sera peut-être une bonne surprise. Et encore une fois, cette distance à prendre, voilà, c'est, si ça part au cinéma, ce n'est plus votre livre.
Et ce sont des romans, donc à chaque fois des univers extrêmement forts et incarnés, comme tout le monde le dit. Ce sont des personnages aussi qui vivent en nous. Est-ce que quand vous avez terminé un livre, puisque vous êtes sur un livre par an, le rythme est celui-là, est-ce que les personnages, parce que nous, ils vivent dans notre cœur de lecteur, quoi. Est-ce que les personnages aussi vivent encore? Est-ce que vous êtes encore possédé par vos personnages comme un acteur dans son rôle? Je ne peux pas faire cette comparaison.
Alors moi, je suis quelqu'un d'horrible, donc en fait, si vous voulez, vous lisez en quelques heures ou une journée ou deux jours ou une semaine, et ils sont là. Moi, ça fait un an que je les traîne. Hein. Il me faut à peu près un an pour écrire, un an que je les ai en tête. Et en fait, bon, je dis avec un peu d'humour, mais au bout d'un an, vous en avez marre de les voir. C'est-à-dire que vous avez envie de passer à autre chose. Et quand je termine un livre, moi, il y a une chose, c'est l'excitation totale de vous dire que vous bouclez celui-là parce qu'il y en a un autre qui commence et que donc vous allez à nouveau réinventer un monde. Vous imaginez, enfin, vous inventez un monde, quoi. Vous êtes Dieu d'une certaine façon. Inventer des personnages, les mettre en place. Et donc, il y a une jubilation de la création, de l'imagination. Qui fait que, non, je les ai oubliés en deux ou trois jours. Enfin, je me souviens de l'histoire parce que je l'ai écrite. Mais je n'ai pas de regrets et j'ai vraiment... il reste juste cette joie de se dire, maintenant, je passe à autre chose.
Et c'est les lecteurs après qui s'en emparent.
Oui, complètement. Et puis... qui après vous disent en plus, moi la fin je l'aurais plutôt vu comme ça ou comme ça et j'aurais fait ça, et donc ça c'est assez amusant. Et puis qui vous demande aussi, qui vous parle de la symbolique qu'il y a dans vos livres, donc il y a plein de choses auxquelles vous n'aviez pas pensé. De temps en temps ça me rappelle, mais j'ai oublié quel peintre qui expliquait que s'il avait su tout ce que les experts analyseraient et interpréteraient de ses tableaux, il aurait sans doute été pétrifié au moment de les peindre, et que rien de ce qui était dit par ses experts, il a été conscient de rien, et c'est pas ce qu'il avait voulu peindre, c'est pas ce qu'il avait voulu. C'était en lui et il fallait qu'il peigne. Et donc c'est amusant de voir après la façon dont chaque personne s'en empare et se l'approprie et en fait son univers propre. Et donc il y a des choses, incroyables, mais il y a des choses très, très amusantes. Dans les nœuds d'acier, par exemple, quelqu'un est venu une fois en me disant je suis sûre que vous avez voulu faire passer quelque chose avec les dents, et je lui dis avec les dents, et donc elle m'a dit la femme qui tient la chambre d'hôte dans laquelle va se refermer un piège sur le personnage qui s'appelle Théo est adorable, une vieille dame charmante absolument, et elle m'a dit mais je savais qu'il y avait un problème parce que quand il arrive il voit juste, il lui manque une dent à cette dame. Et par ailleurs, dans la suite du livre, lui-même, sur une altercation, quelque chose, va avoir une dent ébréchée. Et donc voilà. Et à partir de ça, elle avait bâti toute une hypothèse en me disant qu'il y avait une symbolique de la dent dans le livre. Et donc elle se demandait si c'était de la puissance, si c'était sexuel, si c'était rapport à... vous appuyez sur le joker en disant « je ne sais pas ». Mon Dieu, je ne sais pas.
Oui, après, toutes les interprétations sont ouvertes et après, c'est vrai que vos livres sont tellement inclassables et en même temps tellement ouverts sur plein de choses et d'hypothèses. La lecture biblique, littéraire, les influences, le conte. Dans Six fourmis blanches, bien entendu, on pense au diptyque nègre, dans Les larmes noires sur la terre. On pense à d'autres contes, d'autres romans qui s'agrègent comme ça dans notre mémoire, et forcément ça le lecteur après s'approprie aussi chacun de vos romans. Et justement, je vous remercie en tout cas beaucoup, Sandrine Colette, d'avoir répondu à toutes ces questions.
Merci.
Et je vais laisser la parole au public qui peut réagir, poser lui-même des questions, puisque je pense que que ça suscite pas mal de réactions, du moins d'enthousiasme, les livres de Sandrine Colette. Je sais qu'il y a beaucoup de lecteurs qui sont fans. En tout cas, merci beaucoup, Sandrine Colette, d'être venue nous parler de ce sixième roman. On espère le septième bientôt, encore très, très différent, on imagine. Et que Juste après la vague soit le plus, porte le plus loin possible. Encore un de vos très, très beaux romans. Voilà, c'est des romans qu'on n'oublie pas. Et moi, je retiens en tant que lectrice, peut-être parce que j'en lis beaucoup aussi, le fait que tous les personnages soient vifs, soient vivants. Et ça, c'est du noir, mais c'est en même temps, c'est quelque chose d'extrêmement lumineux et intense.
Ils sont vivants au départ.
Oui, oui. et le souvenir aussi reste là. Merci beaucoup, Sandrine Colette.
Merci à vous, en tout cas.